France Musique.
Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver. Je vous remercie d'avoir choisi France Musique. J'ai l'immense plaisir de partager avec vous quelques enregistrements du violoniste Ivry Gitlis. Vous savez sans doute qu'il nous a quittés le 24 décembre dernier. Il nous laisse un legs pour le moins passionnant. Ivry Gitlis était né à Haïfa, qui se trouve aujourd'hui en Israël, le 25 août 1922. Il avait commencé le violon à 5 ans, donné son premier concert à 7 ans. À 10 ans, il était entré au Conservatoire National Supérieur de la ville de Paris. Il en sort à 12 ans avec un premier prix en poche. Il poursuit ensuite ses études avec Georges Enescu, Jacques Thibault et Karl Flech. En 1951, sa carrière internationale est lancée suite à sa participation mémorable au concours Jacques Thibault. Immédiatement après, il enregistre le concerto à la mémoire d'un ange d'Alban Berg qui va obtenir le grand prix du disque. Et nous, c'est chez Mendelssohn que nous allons l'écouter tout de suite. Voici le troisième mouvement de son concerto pour violon en mi mineur.
Thank you.
Alors certes, on peut dire qu'on est parfois à la limite du mauvais goût, mais il y a toujours cette sonorité chatoyante, ce tempérament irrésistible. C'était Ivry Gitlis dans le troisième mouvement du deuxième concerto en mi mineur de Félix Mendelssohn. Il était accompagné par l'Orchestre National de l'Opéra de Monte Carlo, dirigé par David Josefowitz. En 1888, Johannes Brahms a dépassé les 50 ans. Il passait son dernier été sur les rives du lac de Thun en Suisse. Et c'est à ce moment-là qu'il a composé sa troisième et dernière sonate pour violon et piano en ré mineur. Le troisième mouvement me fait penser à une jolie fille qui jouerait avec un amoureux transi, avait déclaré Clara Schumann au sujet de cette œuvre, qui commence en demi-teinte, à mi-voix, dans un ton quelque peu mystérieux. C'est ce premier mouvement que nous allons écouter maintenant, premier mouvement de la troisième sonate en ré mineur de Johannes Brahms, joué par Ivry Gitlis au violon et Daria Ovora au piano.
Thank you.
Le premier mouvement et son incroyable richesse mélodique, premier mouvement de la troisième sonate pour violon et piano de Johannes Brahms, joué par deux interprètes totalement habités et passionnés, le violoniste Ivry Gitlis et la pianiste Daria Ovora.
Le Van Beethoven, Aurélie Moreau, France Musique.
Je ne pourrais pas vous expliquer comment j'ai commencé la musique, c'est plutôt la musique qui m'a commencé. Ce sont évidemment les mots d'Ivry Gitlis que nous allons entendre maintenant dans l'un des deux concertos pour violon écrits par un virtuose polonais de cet instrument, le violoniste et compositeur Henryk Wieniawski. Ivry Gitlis et Wieniawski ont d'ailleurs sensiblement le même parcours. Ils étaient tous les deux de véritables enfants prodiges. À 8 ans, sur les conseils de son oncle, Wieniawski était entré au conservatoire de Paris pour y étudier le violon. Il terminait ses études 3 ans plus tard, à 11 ans, avec un premier prix de violon. Ivry Gitlis, quant à lui, a obtenu son premier prix à 12 ans, Conservatoire de Paris également. Vous voyez qu'il n'y a pas grande différence. Ivry Gitlis, le voici dans l'Allegro con fuoco final du deuxième concerto en ré mineur de Wieniawski, qui est dédié à un autre virtuose du violon, le violoniste Pablo de Sarasate.
Thank you.
La technique diabolique d'Ivry Gitlis dans ce troisième mouvement du deuxième concerto pour violon de Wieniawski. L'orchestre national de l'opéra de Monte-Carlo était dirigé par Jean-Claude Casadesus en 1971. Alors l'un des incontournables du répertoire pour violon, c'est le concerto de Tchaïkovski. Bien sûr, certains violonistes affirment même qu'il est le plus difficile, mais rien n'est trop difficile pour Ivry Gitlis. C'est ce que nous allons entendre dans quelques instants. Tchaïkovski avait entrepris son concerto pour violon en 1878. Il était installé à Clarence, en Suisse. Il se remettait difficilement de l'échec de son mariage et reprenait progressivement un rythme de travail soutenu. En très peu de temps, il avait achevé sa quatrième symphonie, son opéra Eugène Onéguine et son concerto pour violon. La création artistique était devenue un refuge pour le compositeur. C'est ce qu'il avait écrit dans une lettre à sa mécène Nadiejda von Meck. Je ne sais ce que sera l'avenir, mais pour l'instant, je me sens comme réveillé d'un horrible cauchemar, ou mieux, comme un convalescent après une longue et effroyable maladie. Comme tout homme qui récupère après une forte fièvre, je suis encore très faible. J'ai du mal à relier mes idées, mais en revanche, quelle paix délicieuse, quelle sensation enivrante de liberté et de solitude. Sur ces mots de Tchaïkovski, voici le premier mouvement de son concerto pour violon en ré majeur, joué par Ivry Gitlis en soliste.
Thank you.
Comme un grand voyage musical, ce premier mouvement du concerto pour violon en ré majeur, composé par Tchaïkovski, c'était Ivry Gitlis en soliste avec l'orchestre symphonique de Vienne, dirigé par Heinrich Hollreiser.
Le Van Beethoven, Aurélie Moreau, France Musique.
Sur les ailes du chant, c'est une mélodie composée par Félix Mendelssohn sur un texte du poète Heinrich Heine, composé en 1834. Alors il existe une transcription pour violon et piano de cette œuvre sublimissime et on va l'écouter dans l'interprétation d'Ivry Gitlis, bien sûr. Le texte contient ces vers. Sur les ailes du chant bien-aimé, nous allons nous envoler loin là-bas vers le Gange et ses prés où je connais un lieu de toute beauté. Sur les ailes du chant, mélodie de Félix Mendelssohn, jouée au violon par Ivry Gitlis avec Shigeo Neriki au piano. Je voudrais vous faire écouter maintenant Ivry Gitlis avec la pianiste Martha Argerich. Mais d'abord, je voudrais vous lire un témoignage d'Ivry Gitlis qui commence par l'évocation de ses leçons de violon avec Jacques Thibault. Je cite Ivry Gitlis. « Quand j'étudiais avec Thibault à Saint-Jean-de-Luz, j'arrivais chez lui vers 11h du matin. Le maître, grand seigneur, m'accueillait en robe de chambre élégante, une cigarette pendue aux lèvres et un verre à la main. Il prenait ensuite son violon sans aucune affectation. Je regrette regrette que cette simplicité se soit perdue, poursuit Gitlis. Je ne retrouve aujourd'hui cette chaleur humaine que chez Martha Argerich, qui est une amie très chère. Nous allons donc les écouter ensemble, Ivry Gitlis et Martha Argerich, dans la sonate pour violon et piano de César Franck, qui occupe une place de choix dans la discographie de Martha Argerich, qu'il a enregistrée plus de 10 fois avec les interprètes les plus illustres. Mais finalement, rien ne réussit autant à Argerich que de collaborer avec des personnalités fortes, telles que celle d'Ivry Gitlis.
Thank you.
fulgurance pianistique. Elle est l'un des derniers piliers de l'univers, déclarait Ivry Gitlis au sujet de Martha Argerich. Nous venons de les entendre tous les deux dans cette grande tempête de notes qui est le deuxième mouvement de la sonate pour violon et piano en la majeure composée par César Franck. Inutile de vous présenter l'œuvre qui va suivre. Je suis quasi certaine que vous la connaissez déjà. C'est le final du très fameux deuxième concerto pour violon de Paganini que je vous propose, concerto baptisé la clochette, la campanella, à cause de son troisième mouvement dans lequel Paganini fait intervenir une petite cloche à chaque fois que le thème réapparaît. Voici un extrait du final du deuxième concerto pour violon de Paganini, joué par Ivry Gitlis, bien sûr.
Thank you.
Voilà ce que l'on appelle savoir prendre des risques. C'était Ivry Gitlis au violon dans le rondo à la clochette du deuxième concerto pour violon en si mineur de Paganini. L'orchestre symphonique de la radio de Stuttgart était dirigé par Stanislav Skrovachevski. Un grand merci à toute l'équipe du Van Beethoven, Cécile Bonnet-Desclostres, Antoine Courtin et José Bernays.
À réécouter sur francemusique.fr.